Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
Et c'est toujours avec un énorme plaisir que je vous retrouve sur Médien pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Médien, Amna, l'Afrique en culture.
Et aujourd'hui, une spéciale littérature avec tout d'abord Bouchra Bouloise qui sera avec nous pour nous présenter son tout dernier roman entre science-fiction et enquête policière. L'enquêteur Mohsin reprend du service après l'affaire Clara. Et on se fera un plaisir que de parler donc de son nouveau roman, La pierre de Ténébré. Nous parlerons également série avec African Empires, une superbe épopée qui nous emmène du Mali en passant par le Burkina Faso. Une première saison qui a connu un certain succès, qui a pour ambition de faire découvrir une histoire de l'Afrique encore peu connue en Occident et de démontrer bien sûr sa portée universelle. On en parlera dans quelques minutes. Et bien sûr, nous irons à Chicago pour le Festival international du film de la diaspora africaine de Chicago qui ouvrira ses portes du 14 au 16 juin de la Renaissance de Harlem à Rolf de Heer. On se fera un plaisir que d'en parler. Et place tout de suite à notre première invitée du jour, Boubacar Boris Diop, qui a été successivement professeur de littérature et de philosophie dans différents lycées, mais également conseiller technique au ministère de la Culture du Sénégal. L'écrivain francophone et wolophone est l'une des plus grandes figures littéraires sur notre continent, un statut acquis grâce à une œuvre totalement tournée vers la mémoire, le souvenir et le souvenir de l'histoire et des êtres que l'on a connus et qui sont passés. D'ailleurs, son livre « Mourambi, le livre des ossements » a été traduit en plusieurs langues et est devenu un véritable monument de la littérature africaine. Il est avec nous justement aujourd'hui pour nous parler de la littérature sur notre continent.
Quand on commence à écrire, on ne se dit pas « Oh, je vais essayer de résoudre les problèmes de ma société ou encore moins ceux de l'humanité. » Je pense que on est d'abord influencé par ce qu'on a lu. J'ai beaucoup lu quand j'étais jeune, Victor Hugo par exemple, Les Misérables. Et donc, on voit la capacité de la littérature à se placer du côté des pauvres, du côté des opprimés. Et puis, on a un parcours. Voilà, moi j'ai eu un parcours politique. Je dirais d'ailleurs plutôt un parcours militant, intéressé par les questions qui interpellent le continent. Ma génération, nous étions tous plus ou moins marxistes. La philosophie marxiste a eu un impact très fort sur nous. Et voilà, et quand on écrit des romans, de façon très spontanée, on prend le parti de ceux qui sont opprimés, le parti des faibles. On a tendance, ça peut être une grave erreur d'ailleurs, a tendance à prendre sa plume pour une épée et à se battre pour aider la veuve et l'orphelin.
Oui, je voudrais également savoir, puisque voilà, vous parlez de votre génération qui a été primordiale dans l'essor de la littérature africaine à travers le monde, et on voit aujourd'hui toutes ces nouvelles plumes qui émergent de notre continent, notamment à l'étranger. Quel regard vous portez-vous sur ces nouveaux écrivains? Qu'est-ce qui vous touche? Et quelle est la différence peut-être entre votre génération et cette nouvelle?
La différence, par exemple, je vais remonter plus haut que ma génération. Si vous prenez le premier roman jamais écrit en langue française par un Sénégalais, par quelqu'un d'Afrique subsaharienne, Force Bonté, vous le comparez au tout dernier roman publié par la nouvelle génération, mais vous vous rendez compte que vraiment, ces genres de textes sont à des années-lumière. Je pense que même en qualité, c'est des textes beaucoup plus forts, Voilà. Cela dit, les auteurs de ma génération et ceux et les nouvelles plumes dont vous parlez, il y a de grandes différences, mais nous restons dans le même univers d'écriture. Il est vrai que la plupart de ces auteurs sont installés à l'étranger, en particulier d'ailleurs en France. Hein. Les différences ne sont pas si importantes que cela. Bon, moi, je suis au Sénégal, hein, mais en général, les auteurs dont on parle le plus se trouvent hors du continent. C'est la même chose pour le football. Hein, voilà, c'est une tendance de notre époque. Je crois que c'est très important. L'Afrique est le seul continent où les auteurs créent leurs romans, leurs pièces de théâtre dans des langues, l'anglais, le portugais, le français, que leurs compatriotes ne peuvent pas comprendre. Alors, pour qui écrivent-ils vraiment? Et nous pensons, en tant que d'ailleurs disciples de Cheikh Anta Diop, nous pensons bon, qu'il est temps que la littérature dans les langues africaines soit prise au sérieux, soit encouragée. Ngugi, il écrit en Kikuyu, il est du Kenya, c'est l'un des auteurs contemporains les plus connus, Ngugi Wa Thiong'o. Moi-même, je suis sénégalais, j'écris en Wolof, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la littérature dans les langues du Sénégal, il s'agisse du Séré, du Poula, du Wolof, est tout aussi importante que la littérature en langue française. Mais en fait, je viens de publier un roman le 7 mars. Donc, cela fait à peine 2 mois, il me semble, hein, exactement le 7 mars. Le deuxième roman que j'ai écrit en Wolof, je l'ai traduit en français chez mon éditeur habituel, Philippe Ray, à Paris, et c'est intitulé Un tombeau pour Kidégagu. D'ailleurs, il est très revisité par la critique, on en parle énormément.
Et on sera au rendez-vous, bien sûr, à l'heure de la publication et dès qu'on pourra, bien sûr, le découvrir. Merci en tout cas, Monsieur Diop, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir que de vous avoir.
Je vous en prie.
Merci
Voilà, merci.
beaucoup.
Et après avoir parlé littérature dans l'Afrique en culture avec notre invité, Boubacar Boris Diop, nous parlons série avec African Empires, première saison qui a connu un certain succès et qui a pour ambition, eh bien, de faire découvrir une histoire de l'Afrique encore malheureusement peu connue en Occident et de démontrer sa portée universelle. Une histoire d'avant la colonisation, celle des royaumes et empires Kouche au Soudan, Mandé au Mali, Zoulou en Afrique du Sud et Mougo au Burkina Faso. D'ailleurs, les 4 premiers épisodes sont consacrés à des personnalités emblématiques de l'Afrique. African Empires, un documentaire fiction qui mêle images d'animation, mais également images d'archives et des interviews de scientifiques et d'artistes qui donnent de la profondeur aux propos. Askia Traoré, le réalisateur de ce premier épisode, nous raconte une histoire médiévale qui est parvenue jusqu'à nous par la voix de générations de griots. Il dit l'épopée de Sundiata Keita, c'est l'histoire d'un enfant handicapé qui a pris le pouvoir. Comment cet homme a réuni 12 royaumes pour fonder ce qu'on a appelé plus tard l'Empire du Mali. Ce qui est important au Mali, c'est d'avoir vraiment des figures comme l'historien Doulaye Konaté, d'avoir Fodé Moussa, qui est un sociologue, mais qui était aussi chasseur d'oiseaux. Je trouvais que c'était important d'avoir avec nous ces experts-là pour avoir la parole orale, donc celle d'un griot. Fin de citation. Il faut dire que la série africaine Empires retrace aussi les conquêtes du peuple Zoulou au début du 19e siècle, emmené par Chaka Zoulou, un génie militaire réformateur qui régna sur l'actuel territoire de l'Afrique du Sud. Vient ensuite la légende de l'impétueuse princesse Yenenga qui a fondé le royaume Mogo entre le 11e et 15e siècle, un territoire qui correspond aujourd'hui au Burkina Faso et au Ghana. Sébastien Onomo, franco-camerounais, a créé et produit donc la série African Empires avec Creative Touch Studio. Pour lui, la série propose avant tout une histoire de l'Afrique et de son héritage dans le monde moderne, qui a trop souvent fait défaut dans la construction de la jeunesse africaine, du continent au corps de la diaspora. Il dit « Moi, je suis un trentenaire et c'est vrai que dans ma construction personnelle, je n'ai pas eu accès à ces histoires avant un certain niveau d'études. Je me suis dit que si j'avais eu ces informations plus tôt dans mon parcours personnel, je me serais probablement construit différemment, ou en tout cas sans croire au discours qui m'était présenté et qui disait que l'Afrique n'avait pas d'histoire. » Voilà encore une bonne raison de regarder African Empires, cette superbe série, si ce n'est pas encore fait. Et tout de suite, dans l'Afrique en culture, nous avons l'immense plaisir de recevoir Bouchara Boulouise, après une carrière florissante en tant que conseillère en communication dans différents services ministériels. Elle s'est tournée vers l'écriture, la littérature, romancière, chercheuse, mais également essayiste. Elle a son actif notamment Judas, l'ambassadeur et moi, sorti en 2004, Rouge est né en 2010, ou encore Un parfum de menthe, sorti en 2019. Elle nous avait également régalé dernièrement avec son premier polar, Clara, un féminicide qui nous plongeait dans les années 70 de la capitale marocaine. Et cette fois-ci, eh bien, l'inspecteur Mohsin reprend du service pour une enquête à la lisière de la science-fiction. Son dernier né s'appelle La pierre de Tinrir. On écoute Boucha Boulouis.
L'inspiration de La pierre de Tinrir, elle est partie de ces deux images que j'ai eues.
D'accord.
Non, une idée et une image. Mm-hmm. Parce que l'image que j'ai eue, c'était aux Oudaya. Mm-hmm. Aux Oudaya, je ne sais pas si vous connaissez bien, si. En haut, il y a une terrasse qui est fermée au public. Mm-hmm. Et une fois, j'ai eu la chance de la visiter. Il y a les escaliers, il y a les cellules, là, les anciennes cellules almohades et tout ça. Et puis en haut, il y a cette terrasse. Donc c'était assez un peu noir, mais tellement agréable, tellement... ça, c'est que j'ai peut-être à remonter cette... Oui, un peu ça. Et j'ai gardé cette image-là, je l'ai gardée, et c'était une image un peu de la mort, au-dessus de la mort. Donc le crime, le meurtre a été commis là. Voilà, le meurtre de... Parce qu'il y a un meurtre, bien sûr, dans La pierre de Tinrir. Et puis après, il y a une enquête. Et le meurtre, la personne qui est morte, c'était le conservateur du musée des Oudaya.
D'accord.
Le pauvre. Donc de là, qu'est-ce qui s'est passé? L'enquête, on se rend compte qu'il y a eu des fouilles à Tinrir. Mmh. Et dans ces fouilles-là, il y a eu l'affaire d'une pierre. Une pierre qu'on a retrouvée et qui était bizarre. Bon, cette pierre, finalement, il s'avère que elle est magique, qu'elle contient des substances qui donnent de l'énergie à quoi nourrir toute un pays, toute une région, toute l'Afrique même, une source de d'énergie extraordinaire. D'accord. Qui est tombée du ciel, qui est arrivée. Elle est tombée du ciel, et puis bon, après. On rentre un peu dans la science-fiction, c'est que cette pierre, elle est tombée, quelqu'un l'a déposée. Là.
Oui.
Est-ce qu'on est dans les extraterrestres, ou est-ce qu'on est dans des choses que non identifiables, etc. On est dans quoi? Alors là intervient mon idée, je quitte l'image, c'est que dans les années 50, au Maroc, les Français, les Américains militaires, ont été témoins d'apparitions étranges dans le ciel marocain. Ça, c'est vrai, hein, c'est pas, je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu.
D'accord.
Et en 76, en septembre exactement, un objet volant non identifié a été aperçu dans les cieux d'Agadir. Puis, en même temps, on en a vu à Rabat, à Marrakech. Okay. Le défunt roi Hassan II décide de contacter les Américains. Et à l'époque, c'était Hosni Ben Slimane qui était commandant de la gendarmerie royale, qui est chargé de prendre contact avec les spécialistes du Pentagone pour voir d'où venaient s'il y avait des informations sur ces mystérieuses formes observées dans le ciel marocain.
D'accord.
Ça, c'est, Ça, c'était, je suis en train de vous dire ce qui est écrit par la presse à cette époque. Mm-hmm. Le secrétaire d'État américain, c'est Henry Kissinger, a lui-même répondu à la requête du représentant du roi pour dire que ce phénomène peut s'expliquer par des causes naturelles et qu'aucune enquête ne devrait suivre.
D'accord.
Donc, on a classé l'affaire. Mais ce qu'il y a à retenir, moi, ce que je retiens, c'est qu'on n'est pas éloigné de ces choses étranges qui se passent dans l'univers. Mmh. C'est pas parce qu'on est marocain qu'on n'a pas eu... On n'a pas accès à des choses qui dépassent notre entendement, notre culture, etc. Donc on rentre un peu avec cet article, je suis rentrée dans la science-fiction et dans le livre il y a des éléments de science-fiction qui sont très intéressants d'ailleurs. J'aime bien parce que je décris un peu comment un extraterrestre, quelle tête il peut avoir, comment il peut fonctionner. Au Maroc, dans la société marocaine. Et puis l'enquête, il y a le commissaire Mohsin qui fait son enquête et qui lui-même, il n'est pas prêt à recevoir ces histoires d'extraterrestres, mais il est obligé de faire avec. Donc, il trouve quand même l'assassin.
La pierre de
conservateur.
Donc la pierre de Tinrir, votre tout dernier roman, Vosha Boulouise. Et comment s'est passée concrètement l'écriture de ce roman? Est-ce qu'elle a été difficile? Est-ce qu'elle a été plutôt fluide?
Non, ça a été facile.
D'accord.
Facile parce que, contrairement à ce qu'on croit, écrire des enquêtes, c'est très mathématique. On dérape pas par des émotions inutiles ou par des. Il y a un mobile, il y a un meurtre, il y a une espèce de trame à respecter. Et puis il y a l'enquête, et puis il y a la sympathie des personnages, parce qu'il faut aussi jouer sur le sympathique commissaire, donner un peu une image sympathique à la police. Mmh. Heureusement que c'est possible, parce que effectivement le commissaire a beaucoup de succès auprès de mes lectrices. Et puis on me demande, mais est-ce qu'il existe vraiment? Parce qu'il est très sympa, il est adorable, il est intelligent, il fait les choses bien, quoi. Donc voilà, il y a l'enquête, il y a les crimes, il y a le mobile, il y a les raisons, et puis il y a ce qui s'ajoute. Qui s'ajoute pour rendre l'œuvre plus agréable, pour qu'on ait envie de rentrer dans ce paysage du crime et des émotions, etc.
Donc voilà. La pierre de Tinrir, votre tout dernier roman à retrouver dans les librairies dès maintenant. Et je voudrais savoir, Bouchra, est-ce que vous avez déjà peut-être l'idée ou une image, ou les deux, d'un prochain roman?
Ben oui, justement, ça se passera toujours dans la région Tinrir, c'est à Taghounit.
D'accord.
Et c'est une affaire aussi qui va être aussi passionnante que celle-ci, parce que c'est une zone, de toute façon l'Atlas et le bas de l'Atlas, c'est une zone mystérieuse. Mm-hmm. Et je pense il faut la sonder, et moi je trouve un plaisir à sonder ce mystère de nos origines, réellement c'est nos origines, tout l'Atlas, quoi, tout ce qui a existé, qui a été oublié ou qui existe encore, hein, les traces sont là. Il suffit de chercher un peu dans les grottes qu'il y a là-bas, on découvre énormément de situations qui sont bonne à traduire en art, en écriture, ou en cinéma, c'est beau, c'est tellement beau, c'est magique, je veux dire, on est un peu dans la magie créatrice, quoi.
Donc la pierre de Tinrir, votre tout dernier roman, à retrouver donc dès maintenant en librairie. Merci beaucoup, Vosha Boulouise, d'avoir été avec nous, merci.
C'est moi qui vous remercie, j'espère que j'ai été assez claire.
Très claire.
On a toujours peur de ne pas l'être suffisamment. Quoi.
C'était super, merci beaucoup.
Voilà, ben, je vous remercie aussi.
Merci.
Et mes amitiés à votre père.
Merci beaucoup, Bouchra.
Allez, au revoir.
Au revoir. Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, cap sur la ville de Chicago avec le Festival international du film de la diaspora africaine de Chicago du 14 au 16 juin. Le Festival international donc, du film de la diaspora africaine de Chicago revient à Facettes. Alors depuis sa création, la DIF Chicago a présenté des films, bien sûr culturellement parlants, et qui mettent surtout en avant l'histoire du peuple noir et des indigènes, donnant une voix, des voix à des réalités et à des peuples souvent mal représentés. Cette année, la DIF Chicago porte une sélection spéciale de films et d'événements en Facettes qui met en lumière un éventail de sujets comme le colorisme, la renaissance de Harlem, le Brésil et le travail du cinéaste Rolf de Heer. D'ailleurs, on écoute un extrait de The Survival of Kindness de Rolf de Heer. The Survival of Kindness de Rolf de Heer qui sera au programme donc, et des projections sont également prévues de ses œuvres au sein du Festival international du film de la diaspora africaine de Chicago qui ouvrira ses portes du 14 juin jusqu'au 16 juin. Merci d'avoir été avec nous sur Média pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique. Et avant de nous quitter, je vous propose allez, une petite pause musicale avec Ciné Blow Today. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas que l'Afrique en culture, c'est à écouter en avant-première sur Média Podcast. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine, sans faute.
Every time we see you, my sense know the answer. This thing they like na thunder. Baby girl, you make me the wonder.
Wonder.
Say I go the nang how, I go the ton nang gamboko.
Boko.
Me too, I don't start the hammer. Even a pato pato, I go the mash.
You can follow me, follow me, follow me. We go blow today.
Want to just fire, yeah, yeah, yeah. Every day is this, yeah, yeah, yeah. The way you make me just fire, yeah, yeah. Baby, I see you.
See you.
Come to me, my darling. Uh-huh. Let me do everything that you want me to do. Anytime that you need me, my baby.
You can follow me, follow me, follow me. We go blow today.
Every time that you need me, my baby.